Chapitre 39. 2 novembre 2010. Il y a des réponses qui soulèvent encore plus de questions. Pourquoi avoir raturé les noms et la date de l'article? Pourquoi l'avoir dissimulé sous un meuble? Pourquoi? 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 Pour protéger celui qui le trouverait? Pour ne pas remonter jusqu'à lui? Pourtant, il est âgé à présent. Un vieil homme est inoffensif. Cette pensée me rappelle Klaus Barbie au cours de son procès à Lyon. C'était un vieillard au regard noir comme l'enfer et au sourire immuable. Je ne l'oublierai jamais. C'était celui du diable. Après avoir passé une première nuit dans notre hôtel près du lac de Flumet, Lies et moi déambulons dans les allées du petit cimetière près de l'église.
Pourquoi il y a autant de fleurs, c'est normal?
Hier c'était la Toussaint, Lies. On fleurit les tombes. Lies est convaincue que si Marie-Roman est décédée, elle y repose. Si Blanche est née en 1946 comme Colette, comme c'est stipulé sur sa pièce d'identité, sa mère doit être née entre les deux guerres et aurait entre 80 et 90 ans. Lies lit les noms et prénoms inscrits sur les tombes, observe les différents portraits qui pâlissent avec le temps, se baisse pour redresser les vases renversés. Certains noms ont disparu de la surface des pierres. La mousse envahit, le vent emporte, la pluie efface, le soleil et la neige brûlent. Aucune trace d'une famille Roman. Nous poussons la porte de la mairie et nous dirigeons vers le service d'état civil, où nous tombons sur un écriteau, naissance, mariage, décès.
La vie résumée en 3 mots, murmure Lies à mon oreille.
Une jeune femme au sourire délicieux fait son apparition et son regard de biche laisse penser qu'elle est de ceux qui simplifient les choses.
« Il y a des jours où je crois en Dieu », lui dit Lies avant même de la saluer.
Cette remarque semble les troubler tous les deux. Lies, d'habitude si timide avec les inconnus, ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. « Je peux vous aider ?» Il lui relate l'appel téléphonique de M. Aubert, un appel vieux de 50 ans, quand celui-ci était encore employé à la mairie de Guignon, en Saône-et-Loire, et recherchait une femme du nom de Marie Roman. Lies ne lui épargne aucun détail. « Ma tante, Blanche qui repose sans doute dans le cimetière de Guignon, le cirque, le directeur du cirque, l'article raturé. » La jeune femme boit ses paroles, les yeux écarquillés. Son regard pétille et son teint rosit au fur et à mesure que mon ami d'enfance lui parle. Est-ce Lies qui la trouble ainsi, ou l'histoire qu'il lui raconte? Les deux? Il faut dire qu'il est si beau avec sa peau mate, son regard perçant et ses boucles brunes. Il a la stature élancée d'un ancien sportif. Il porte un parfum ambré et un blouson de cuir. Si je ne le considérais pas comme un frère, il me plairait. Mais c'est Lies, donc il ne peut pas me plaire. Cet être est pour moi asexué. Lies finit par demander à l'employé de mairie si elle a le souvenir d'une femme grièvement agressée, peut-être un fait divers qui a eu lieu dans la région, une femme qui se déplaçait en chaise roulante. Elle est catégorique. Dans le village, impossible. Je m'en souviendrai, je suis née ici, j'ai grandi ici. J'ai fait mes études supérieures à Sallanches, puis à Chambéry, mais je suis toujours revenue. Suivez-moi. Nous l'accompagnons dans un bureau à l'écart qui sent le papier, la naphtaline et l'ammoniaque. Devant nous, elle téléphone à sa mère. « Maman, tu te souviens d'une femme qui aurait été agressée à Flumet ou dans la région et laissée pour morte par un ex-mari violent ?» La réponse est « Non, ça ne me dit rien, je vais demander à Robert. » Robert, c'est son oncle flic. Ensuite, elle s'assied devant son ordinateur et interroge un fichier. Fait interdit dans la mesure où nous n'avons aucun lien de parenté avec Marie Roman, mais elle semble s'en moquer complètement, bien décidée à nous aider. « Tout a été informatisé il y a 20 ans », nous explique-t-elle. « Bingo ! Roman Marie-Madeleine, née à Flumet le 24 juillet 1929. Ça pourrait correspondre ?» Je n'ai pas le temps de répondre. Une chaleur insoutenable m'envahit, je sens le sol se dérober sous mes pieds, et les murs se couchaient sur moi. Je reprends connaissance allongée par terre, la tête posée sur le blouson de Lies. Lui et la jeune femme sont penchés au-dessus de moi, tandis qu'un inconnu prend ma tension.
T'es tombé dans les pommes. Lynn a appelé un médecin.
Je comprends alors que Lynn est la radieuse jeune femme qui nous a accueillis.
Le toubib prend la parole.
La tension est bonne, je ne vois rien d'anormal.
La dernière fois que vous avez mangé, c'était quand ?
Ce matin, à l'hôtel. J'ai pris des fruits et deux cafés.
Vous êtes particulièrement stressée en ce moment ?
Je suis incapable de répondre. Toutes les images se percutent dans ma tête, m'empêchant d'articuler le moindre mot. Ma tante à la morgue, sa voix sur les cassettes, Mokhtar qui l'a adopté, Louis Berthéol, le docteur Pierry, la maison des Fredins, Pierre au téléphone, Blanche, Marie Roman baignant dans une mare de sang, le cimetière ce matin. Je sens les larmes monter et la chaleur revenir dans ma tête, menaçante. Je supplie Liesse du regard de répondre à ma place.
« Oui, » rétorque-t-il, « elle traverse une période difficile. » « Je vais vous prescrire quelque chose, mais passez à mon cabinet. On va faire une prise de sang et des analyses. Voici mon adresse. »
« Non, docteur. Mon cœur n'est pas normal et ne l'a jamais été. Et à présent, il est brisé. Oui, docteur, mon cœur n'en peut plus parce qu'il s'est trompé. Mon cœur est un traître. »
« D'accord, » dis-je en me relevant comme une vieille dame.
« C'est sans doute un malaise vagal ou une crise sévère de spasmophilie. Vous en souffrez ?»«
Je ne crois pas. »
« Vous êtes la metteur en scène, c'est ça ?»«
Oui. »
« On dit metteur ou metteuse ?»«
Comme vous voulez. » »«
En tout cas, vos films sont vraiment bien. Et votre mari, quel acteur génial !»
Je ne peux réprimer un sourire devant la mine décomposée de Liesse, qui fusille le pauvre médecin du regard. On dirait que c'est lui qui va défaillir à présent. Nous faisons vraiment la paire des cœurs brisés.
Liesse nous propose de déjeuner tous les trois, avec Lynn et moi. Il n'a pas fini sa phrase que Lynn répond oui. Elle nous entraîne dans le seul restaurant de la rue principale et nous nous installons dans la salle du fond qui donne sur l'Arly. Le lieu est joli, chaleureux. Toutes les tables sont occupées.
Des gens d'ici. Pour les touristes, on est hors saison. Ils reviendront pour les vacances de Noël, nous explique Lynn.
Ici, la cuisine est bonne.
Elle a imprimé la fiche individuelle d'état civil de Marie Roman et la sort de son sac à main en me demandant si ça va aller, si je ne vais pas encore m'évanouir à l'évocation de son nom.
C'est bon, c'est passé, juste un peu de fatigue.
Mais vous la connaissez, cette femme ? Hier encore, j'ignorais jusqu'à son existence.
Lynn commence à lire à voix haute.
Nom Roman, prénom Marie-Madeleine, née le 24 juillet 1929 à Flumet, de Roman Alphonse et de Mangèle Pascal.
Mangèle ! S'écrie Liesse. J'ai vu ce nom au cimetière.
La mention époux est rayée, reprend Lynn. Il est écrit « Divorcé de Soutkovski ».
Il n'y a pas de prénom indiqué, rien que ce nom, Soutkovski.
Soudoro
Soutkovski. Ça y est, je m'exclame. On connaît enfin son nom. Le nom du père de Blanche et du tortionnaire de Marie.
Je saisis les mains de Lynn dans les miennes et la remercie.
Grâce à vous, on vient de faire un pas de géant. Mais alors, ça veut dire que le nom de Blanche, celui qui est barré sur la pièce d'identité, et sûrement Soutkovski aussi.
Oui. Liesse, en rentrant à Guignon, tu viendras avec moi voir le capitaine Rampin.
Ouais.
Vous êtes mariée ?
Demande Lynn.
Amie, dis-je amusée.
Je ne me suis jamais mariée, confesse Liesse.
Pourquoi ? Le questionne Lynn.
Parce que l'occasion ne s'est jamais présentée. Et vous, Lynn, vous êtes mariée ?
Une malheureuse histoire qui s'est terminée il y a un peu plus d'un an.
Le visage de Liesse s'illumine.
Alors je peux vous inviter à dîner ?
Je ne l'ai jamais vu ainsi. Prolixe, farceur, presque enjôleur.
Lynn rougit puis me dévisage, gênée.
Ne vous inquiétez pas pour moi, il faut que je passe au cabinet médical et après, repos et dodo à l'hôtel.
Je les quitte sur le trottoir. Liesse veut raccompagner Lynn à la mairie, moi je prends la tangente. Je retourne au cimetière.
Un vent glacial s'est levé. Je relève le col de mon manteau.
J'arpente de nouveau les allées et je finis par trouver les parents de Marie.
Alphonse et Pascal, nés Mangèle.
C'est étrange, le nom Roman n'apparaît pas, uniquement le nom de jeune fille de sa mère. D'autres prénoms sont gravés, Ernestine, Martin, Léontine, mais pas celui de Marie.
Alors que je suis perdue dans mes pensées, quelqu'un me frôle et s'arrête près de moi devant la tombe. Je sursaute en retenant un cri. C'est une dame âgée, tout de noir vêtue du bonnet aux chaussures. Petite, fine, presque une ombre, exactement comme l'était Colette. Elle se baisse pour arracher de la mousse dans la fêlure d'une plaque mortuaire que je déchiffre à ma tante adorée. Transie de froid et d'effroi, je parviens à prononcer ces mots. « Pardon, madame, savez-vous ce qu'est devenu Marie Roman ?»